On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
Feu, l'aménagement du territoire.
Pour enrayer ces départs massifs sur Paris, pour permettre une décentralisation industrielle effective, redonner de la vie aux centres secondaires de nos provinces et enfin refaire ces liaisons transversales indispensables en France pour que le pays échappe enfin à cette toile d'araignée que nous a léguée le 19e siècle et dont Paris est le centre. Voilà quelle est la politique de l'aménagement du territoire.
Ainsi parlait Olivier Guichard. Aujourd'hui, les grandes taches de lumière qu'on voit depuis le hublot de l'avion quand on survole la France la nuit, ce sont les métropoles. Elles sont bien équipées pour la mondialisation. D'autres parties du pays ont beaucoup de cartes à jouer, par exemple sur le littoral. Et puis, il y a les zones qui marchent à l'ombre, avec difficulté. L'aménagement du territoire avait pour vocation de réduire les écarts par une politique d'État volontariste. C'est elle qui tenait le ton dans les années 60-70, avec par exemple Olivier Guichard. Puis est venu ce qu'on appelle encore par habitude la crise. L'État, par ailleurs, a dû composer avec les régions dont il avait renforcé le rôle en 1981. Une logique de concurrence s'est mise peu à peu en place entre elles. Dans le chantier permanent qu'est la réforme territoriale de notre pays, on n'a pas prêté assez d'attention au changement de nom de la DATAR. En 2005, de délégation à l'aménagement, elle est devenue délégation à la compétitivité des territoires. Maintenant, on a un commissariat général à l'égalité du territoire. L'État est affaibli, mais il ne peut se satisfaire d'un pays en archipel. Certains lui recommandent « oser le désert ». Or, il n'y a pas de désert en France. Et même si l'espace rural n'est plus économiquement indépendant, il demeure un espace politique où on procède encore à des élections. Il ne va d'ailleurs pas manquer de donner son sentiment aux élections départementales qui approchent.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Béatrice Gibelin, qui longtemps a animé l'Institut de géopolitique de Paris 8, qui anime toujours l'excellente revue Hérodote. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on pourrait faire de l'histoire de l'aménagement du territoire, dire que c'est une vieille tradition. Arnaud Montebourg, vous vous souvenez d'Arnaud Montebourg?
Oui, oui.
Parlait beaucoup de Colbert, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais pourquoi on a besoin de faire de l'aménagement du territoire depuis longtemps en France? Parce que la France a un grand territoire. Le Royaume de France a été très tôt un territoire très vaste à l'échelle des royautés de l'Europe. Et donc, la préoccupation de le mettre en valeur est une nécessité. Vauban, quand il doit s'occuper de la défense des frontières du Royaume de France, il fait de l'aménagement du territoire. Il crée des villes qui sont encore de toute façon assez extraordinaires à visiter. Il fait de l'aménagement du territoire. Quand il pense qu'effectivement il va falloir lever des impôts et qu'on doit les répartir sur l'ensemble du territoire, il fait déjà un maillage du territoire en prévision de son aménagement.
Colbert, et le jacobinisme va être héritier de cette
tradition.
Oui,
bien sûr, va être héritier de cette tradition. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, on a un vaste territoire et qui était peuplé à l'époque de Louis XIV, 20 millions de Français. L'Angleterre seule, à ce moment-là, c'est 5 millions. Donc, se souvenir quand même toujours de cette grande différence. Et la nécessité de le connaître pour l'aménager. C'est les cartes de Cassini et Louis XIV qui aurait dit « Oh là là, je ne savais pas que c'était si grand que ça, mon royaume. »
Et bon, que la population y était si dispersée. Alors on pourrait multiplier les références historiques, la Révolution, dans l'entre-deux-guerres, les planistes. Mmh. Ah, sous Pétain,
aussi
Jean Giraudoux qui disait « Il faudra une autorité centrale assistée de son état-major, de réaliste et de visionnaire pour aménager le territoire. » Le zénith, il est atteint dans les années 60 avec la création de la DATAR. Qu'est-ce que la DATAR? On a fait, à l'époque, pour la télévision, un micro-trottoir.
Est-ce que vous savez ce qu'est l'aménagement du territoire?
Aménagement du territoire?
Oui.
Je sais pas, moi, c'est assez compliqué pour moi.
Eh bien, c'est un regroupement de toutes les forces économiques et culturelles.
L'aménagement du territoire, c'est au point de vue autoroute, logement.
L'implantation d'industrie, la décentralisation. il y a comment question école, il y a question hôpitaux, il y a un peu de tout.
C'est la disposition qui est à prendre pour établir la sécurité ouvrière.
Bah, c'est pas si mal vu, au fond. Animé par le grand méchant Mou, c'est le surnom qu'injustement, je crois, le Canard Enchaîné donnait à Olivier Guichard, oui, la Tatare, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ouf, c'est une administration de mission.
Oui, je vais peut-être vous choquer, mais je ne pense pas qu'elle ait jamais véritablement eu un effet très, très, très important, la Tatare. De Gaulle a porté la Tatare puisqu'elle est créée en 63. Et dans quel contexte est créée la Tatare ? 63, c'est une date importante. En 62, c'est la fin de l'Empire français puisque c'est la fin de la guerre d'Algérie. Et à ce moment-là, il y a la préoccupation de redévelopper l'ensemble de ce territoire qui est vaste et dont on a le sentiment, ce qui n'est pas tout à fait faux, qu'il a des potentialités qu'il faut impérativement exploiter. Ce n'est pas tellement De Gaulle et les siens qui ont cette première idée, elle est antérieure. Cette idée, elle date du milieu des années 50, avec un ministre qu'on a souvent vu sous la 4e République, qui est Claudius Petit, qui était le ministre de la Construction. Et l'INSEE va sortir un certain nombre de données dans les années 50 qui vont faire apparaître une France à l'est urbaine et industrielle et une France à l'ouest agricole et extrêmement rurale et moins peuplée. Et donc l'idée du rééquilibre de ces deux Frances est déjà en cours au milieu des années 50.
Mais vous êtes en train de dire qu'il faut rendre vaste et diverse une France qui a rétréci.
Oui, d'une certaine façon. La France coloniale ayant effectivement disparu, il faut exploiter le potentiel de ce vaste territoire qu'on a. Avec une idée qui est toujours constante dans l'aménagement du territoire, qui, à mon avis, peut être liée à cette représentation de la figure de l'hexagone, hein, qui est effectivement une figure géométrique qu'on trouve équilibrée et harmonieuse. Les dieux nous ont donné une France hexagonale, c'est bien connu. Et donc, il faut qu'on ait un développement harmonieux, et les géographes ont tenu des discours là-dessus très souvent, sur l'ensemble du territoire. Donc,
et il ne faut pas que la tête soit trop grosse.
Non, alors ça a été une des préoccupations, là aussi, du milieu des années 50, puisque c'est sous Claudius Petit qu'on décide que Paris, qui était la première grande région industrielle, y compris des industries dans Paris intramuros, cette grande région industrielle est trop grosse et qu'il faut la désindustrialiser. Et on a les lois de désindustrialisation de la région parisienne qui précèdent la Tatare, mais de plusieurs années quand même.
Je précise à nos auditeurs que nous parlons ici des années 1950, oui. 1960, la désindustrialisation volontariste de la région parisienne, avec création de métropole d'équilibre.
Ça, c'est un peu plus tard. Ça sera le travail de Michel Rochefort, qui avait fait une thèse en 1962 sur le réseau urbain alsacien, qui était une thèse très novatrice à l'époque. C'était pas du tout comme ça qu'on faisait de la géographie régionale. Et qui va, justement, toujours dans cette préoccupation, on a encore le commissariat au plan, on est encore dans cette logique-là.
Autre administration de mission.
On va créer, au fond, le premier comité national à l'aménagement du territoire, dont Michel Rochefort, géographe, va être le responsable scientifique, avec un haut fonctionnaire qui s'appelait Autreux. Et on va réfléchir à l'armature urbaine et à se dire, au fond, c'est le début du secteur tertiaire. Le secteur tertiaire est important, donc il faut qu'on trouve les pôles sur lesquels on peut s'accrocher, les fameuses métropoles d'équilibre qui vont être essentiellement en place en 64. La grande réflexion est 64-65.
C'est une administration de mission. Il y a beaucoup de géographes, on le comprend, mais il n'y a pas beaucoup de monde. D'ailleurs, le général de Gaulle, quand on lui présentait les administrations au moment des vœux, il était recommandé de ne pas faire revenir tout le monde, parce qu'après il disait, mais c'est qui tous ces types et toutes ces bonnes femmes servent-ils à quelque chose? Il n'y a jamais eu plus de 250 personnes à la Tatare.
Non, jamais. Jamais, jamais. C'était une réflexion d'étude, hein, d'analyse d'étude, mais ce n'était pas un organe de vraie décision.
L'implantation industrielle, il n'en faut pas trop en région parisienne. La désindustrialisation, ça ne veut pas dire la disparition de l'appareil productif, ça veut dire son déplacement, les actualités cinématographiques au début des années 1960.
Cette province de France, qui est la plus particularisée, dont l'ancien parlement de Rennes et les jetons de présence à l'effigie de Louis XVI rappellent son attachement à ses libertés et qui a gardé le privilège de conserver sa langue, est trop longtemps passée à côté du progrès. Mais la situation n'est pas sans espoir. Et c'est une promesse d'avenir que l'importante usine d'automobiles que Citroën achève aux portes de Rennes. Le premier gros consommateur de main-d'œuvre qui permettra, qui permet déjà d'amorcer la diminution d'une émigration qui atteint le chiffre impressionnant de 20 000 exilés volontaires par an.
Usinor à Dunkerque, première expérience en France d'une usine sidérurgique en bordure de mer, est l'un des éléments décisifs de la relance économique de la région du Nord. L'essor de ce complexe contribuera à compenser le déclin prévu de certaines activités traditionnelles de cette région. C'est l'État qui a préparé, décidé et aidé cette implantation.
Promesse d'avenir encore, le chantier de la Rance, qui dotera la Bretagne de la première centrale marémotrice du monde. Et les sondages de Brennilis, qui seront à l'origine de la centrale nucléaire expérimentale au pied des monts Arrée.
Bon, la Rance n'a pas fait beaucoup d'émules, du moins en France. Quant à la centrale des monts Arrée, les Bretons auront corrigé. Brennilis, on ne sait pas comment la démonter. Parce qu'il y a longtemps que ça ne fonctionne plus. Ça illustre le fait que la Datar n'a pas toujours eu le rôle important qu'on lui prête.
Oui, mais la fonction d'une mission, ce n'est pas non plus la fonction de la décision. On est dans un pays extrêmement centralisé. Sans doute que le maximum de la centralisation, c'est la fin des années 60. Et il était hors de question que ce soit une mission, même des hauts fonctionnaires, qui prennent véritablement la décision. Et Olivier Guichard, tout compagnon de la Libération et tout proche de De Gaulle qu'il était, ce n'était pas lui non plus qui prenait les décisions. C'est bien évidemment le pouvoir exécutif et au premier rang duquel le président de la République. Public.
Élu de la Baule, il a failli nous faire disparaître les marais salants au nom de la rationalité touristique. Il avait une délectation pour l'Ouest, une dilection pour l'Ouest.
Oui, bien sûr, puisque c'était... mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y avait eu aussi des mouvements un peu autonomistes en Bretagne qui inquiétaient. Et donc, il était important de, on va dire, satisfaire les Bretons pour désamorcer ce sentiment d'abandon, d'isolement. Et l'union des responsables politiques, syndicaux, économiques en Bretagne a été d'une efficacité redoutable sous la 4e République aussi. Hein.
D'où la possibilité de rouler sur la grande voie rapide sans péage, à quoi n'importe n'importe quel gouvernement d'aujourd'hui devrait faire très attention. Le renouveau du rural dans la Datar et pas seulement à l'Ouest.
Oui, alors on ne peut pas le dissocier du développement de l'Europe et de la politique agricole commune. La France est un pays importateur de produits agricoles pour se nourrir dans les années 50 et c'est devenu une grande puissance exportatrice. Donc c'est une révolution, et les agriculteurs en ont subi plusieurs, extrêmement importante. Donc on ne peut pas penser, si vous voulez, aménagement du territoire rural et politique agricole sans penser politique agricole commune dont l'agriculture française a bénéficié, même si tous les agriculteurs n'en ont, eux, pas forcément bénéficié. Mais la France avait un très grand retard, puisque dans le domaine agricole, l'exode rural en France, il est postérieur à la Seconde Guerre mondiale, l'exode rural massif, alors qu'il est bien antérieur en Allemagne, il sera bien antérieur aussi en Grande-Bretagne. Et la mécanisation a été tardive, très tardive, et à partir du moment où le tracteur est arrivé, effectivement, la productivité a considérablement augmenté et l'exode rural a été massif. Donc, on est obligé de penser à ce contexte-là pour réfléchir sur aménagement du territoire en milieu rural.
Alors, beaucoup de zones rurales avaient une vocation touristique. C'était une administration d'anticipation que la Datar. Elle avait peut-être imaginé que le tourisme allait devenir la première industrie. En tout cas, un immense projet se réalise à partir de 1963 sur le littoral du Languedoc-Roussillon, à la suite duquel vont être construites 7 stations balnéaires. Vous savez combien il y a de lits au Cap d'Agde ?
Plusieurs milliers.
Vous rigolez, 150 000, Béatrice Gibelin, 150 000 lits et 17 ports de plaisance en plus des 7 stations balnéaires. Et vous dites que la Datar n'a pas eu d'effet.
Je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas eu d'effet.
Ou moins d'effet qu'on le dit.
Moins d'effet qu'on le dit, oui.
Au seuil de la Camargue et du Languedoc, le domaine de la Grande Motte constitue la charnière de cette nouvelle Floride que l'État veut faire surgir des marécages.
L'eau est délicieusement chaude à la Grande Motte. Entends-tu les petites vagues qui clapotent ?
Jusqu'à présent, les chevaux sauvages et les cavaliers ont été avec le Mistral les seules âmes du marais. Dans 5 ou 6 ans, le galop des chevaux sera remplacé par le claquement sec des balles de golf.
Un soleil de plomb embrase la grande motte. Entends-tu au loin les cigales qui chuchotent ?
Il est prévu de créer ici une station balnéaire, dotée de nombreux aménagements sportifs et comportant des villages de vacances de conception moderne. Les terrains achetés par l'État longent le bord de la mer. Des hôtels, des pinettes et des terrains de sport y seront aménagés. Des rives de l'Hérault à celles de l'Aude, lorsque la route du littoral percera les pinettes sur le chemin de Vindresse-Plage, les touristes ne se douteront pas, à ce moment-là, que 5 ans auparavant, l'embouchure de l'Aude était recouverte de marécages. Et le paysage, sans attrait particulier.
Tu m'as redonné la liberté et l'espoir. Tu as su apaiser ma douleur et mes pleurs. J'ai quitté les ténèbres pour un monde en couleur. J'ai quitté les ténèbres pour un monde en couleur. En couleur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'aménagement du territoire en France, du zénith au crépuscule. Alors nos auditeurs sont invités à reconnaître le nom de ces deux remarquables interprètes de cette chanson sur la Grande Motte. Nous ne les avons pas trouvés, nous avons juste trouvé le nom du compositeur, Sesamone Amphonessine. Mais le grand nom qu'il faut retenir pour l'aménagement de la Grande Motte et du Languedoc-Roussillon, c'est Philippe Lamour.
Oui, bien sûr.
À force de citer Claudius Petit et Philippe Lamour, qui étaient des amis de Le Corbusier, vous me donnez envie de faire une émission sur Le Corbusier, Béatrice Gibelin. Le temps change. Fin des années 70, la crise, comme on dit. À force de durer, ça ne mérite plus de s'appeler crise. Creuse ses effets. Il faut penser à reconversion. Et pas seulement à implantation de nouvelles industries, à déplacement de l'appareil productif. Et puis, le grand changement, c'est aussi la loi Defferre de 1981.
Oui, c'est une loi effectivement très importante qui a été votée très vite. Mais la décentralisation avait été réfléchie, on va dire. Defferre est un grand élu de Marseille et Pierre Mauroy est le premier ministre de l'époque, à la tête aussi déjà d'une région, puisqu'il est le président de la région. C'est des régions qui n'avaient pas encore beaucoup de pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing les avait déjà leur donné des fonctions un peu plus importantes, c'était des établissements publics. Auparavant, elles n'en avaient pas. Quand vous avez dit on a renforcé les régions, le pouvoir des régions n'avait créer le pouvoir des régions, car les régions programmes n'avaient absolument aucun pouvoir politique. Donc ces deux provinciaux, grands élus locaux, ont mesuré la difficulté à gérer en devant systématiquement remonter à Paris. Donc ils sont extrêmement désireux d'aller très très vite et de déconcentrer, et ne pas seulement décentraliser, vraiment déconcentrer les pouvoirs. Et la caractéristique de cette loi, pour qu'elle passe très vite, parce que la droite était vent debout contre la décentralisation.
Y compris Guichard. Elle était
de toute façon vent debout contre la gauche, donc tout était mis au pilori. Et pour faire passer cela, et pour qu'elle soit acceptée par les élus, il ne va y avoir aucune hiérarchie d'une collectivité territoriale l'une sur l'autre. Et donc les régions n'ont pas le droit de regard sur les départements qui n'ont pas le droit de regard sur les communes. Et les régions ont la compétence de l'aménagement du territoire. Mais toutes les collectivités territoriales gardant la compétence générale, chacune d'elles peut faire de l'aménagement du territoire. Alors c'est à la fois un lourd handicap, c'est là où on dénonce les doublons, la complexité, etc. Mais ça a permis aussi, pour des élus un peu raisonnables, de se mettre ensemble autour d'une table et d'associer communautés de communes ou communautés d'agglomération, départements et régions pour porter un certain nombre de grands projets. Ce qui n'est pas en soi aberrant dans un pays où la notion de consensus est un peu difficile.
Vous venez d'en donner la preuve en parlant de la droite et de la gauche en 81. Alors, l'aménagement du territoire doit maintenant composer avec ce que demandent les régions. Vous êtes en tête de gondole d'un excellent numéro d'Esprit consacré au pouvoir local qui est paru en février. Et où il y a cette hypothèse quand même assez amusante que je livre aux électeurs des élections départementales. Les élus des collectivités en France sont de grands adolescents qui pignent et se plaignent parce que l'État ne leur donne pas assez de responsabilités, mais qui sont très contents, au fond, de ne pas les avoir pour rester sous la protection d'un État redistributeur et adulte, voire vieillissant.
Oui, mais je vais peut-être aller plus loin. Je pense que ce n'est pas que les élus, mais je pense que c'est aussi beaucoup les citoyens. Et que je ne suis pas sûre que les Français soient si volontaires pour être dans des situations de réelle décentralisation et de réels pouvoirs régionaux.
Par exemple, un fonctionnaire, il préfère être fonctionnaire national que territorial.
Bien évidemment. On parle même souvent avec un certain mépris de la fonction territoriale et à la différence de la fonction nationale. Quand il a fallu réduire les fonctionnaires d'État en région ou au niveau départemental, ça a été extrêmement difficile. Mais on est toujours très fort pour accuser ce qui se passe au niveau local. Et la mise en question des dérives financières des collectivités territoriales, qui est toujours faite évidemment par le niveau national, qui a ses fondements, je ne le conteste pas. Mais c'est toujours cette façon de dire, nous on sait, puisqu'on est l'élite d'une certaine façon, et ces élus sont toujours en train de dépenser sans compter, ce qui, à mon avis, est totalement faux. Parce que
ces élus, quand même, ont tendance à se mettre en concurrence. On passe maintenant, à la fin des années 90, aux années 2000, et à dire « nous sommes, avec le davantage d'atouts, nous sommes tous le centre de l'Europe, le centre du monde. Dans la compétitivité générale, nous avons des éléments d'avance. » D'ailleurs, on parle de plus en plus de compétitivité. En 2005... La DATAR devient délégation à la compétitivité des territoires. Et Dominique de Villepin, quand il est à Matignon, a une idée de génie avec les systèmes productifs locaux, la fertilisation croisée des universités, des centres de recherche privés et publics et des ressources de l'appareil productif. On va faire des pôles de compétitivité.
Il faut savoir d'où on vient. Il y a 4 ans, une image détériorée, une ville sinistrée, une agglomération qui n'existait pas.
Nous sommes ici à Toulon. Maire, sécurité et développement durable. Pour ces thèmes, la ville a obtenu le label pôle de compétitivité. Elle compte bien pouvoir ainsi accélérer son développement.
Ce qui va changer, c'est des moyens nouveaux, une lisibilité nouvelle, un rayonnement qui va profiter aux entreprises, qui va profiter à l'emploi, mais qui va profiter aussi à nos concitoyens.
Sur les 105 projets présentés sur l'ensemble de l'Hexagone, 67 ont donc été retenus aujourd'hui, mais rien n'est perdu pour les autres. Ils pourront se représenter plus tard. Un appel à candidature sera lancé à la fin de l'année.
Là où le gouvernement aura à choisir, c'est dans les moyens apportés à chacun de ses pôles. Le budget de Manchester United n'est pas le même que celui d'une équipe de deuxième division. Et là, le rôle du gouvernement dans sa capacité à décider des budgets et des moyens attribués au pôle va être déterminante.
Bon, il n'y en aura pas 105, il y en aura un peu plus de 70. C'est drôle, d'ailleurs, 10 ans après, on n'a pas fait le bilan.
Non, mais on a l'habitude, ça, de ne pas faire les bilans des choses qu'on lance. C'est assez classique, c'est rare qu'on fasse. On n'est quand même pas dans un pays où il y a une tradition de l'évaluation. Enfin, écoutez, ça se saurait si on était dans cette tradition.
Et ces pôles de compétitivité, c'est imiter des clusters américains?
Oui. Totalement. C'était d'ailleurs une assez belle idée. On n'est pas obligé d'aller chercher forcément les clusters américains. Il y avait aussi des formes qui pouvaient relever des districts italiens, hein, avec régionalement dans le nord de l'Italie et qui s'avèrent avec une certaine efficacité. Mais c'est vrai, c'est l'idée du cluster. Et au fond, à la limite, peut-être que le seul véritable cluster de niveau, on va dire, vraiment international et important, c'est peut-être ce qui est sur Orsay, sur le plateau d'Orsay, où il y a effectivement l'école polytechnique, une centralisation, on va dire, d'un certain nombre de grandes universités, l'université d'Orsay, qui est très, très fameuse, avec des entreprises pointues, de haute productivité sur lesquels il doit y avoir un aménagement du territoire là, à cette échelle-là, très bonne desserte, environnement agréable, et il doit y en avoir d'autres sur l'ensemble du centre de la région parisienne. C'est effectivement, compte tenu des 500 000 étudiants et du nombre de centres de recherche qu'il y a en Île-de-France, c'est assez logique qu'on puisse penser pôle de compétitivité.
Alors c'est drôle, maintenant on arrive à la fin de l'émission, on parlait de l'hypertrophie de Paris au début. La seule région dont le découpage politique est incontestable aujourd'hui, c'est la région Île-de-France, et plus personne ne conteste la nécessité d'une métropolisation encore plus grande
de Paris. Il s'est passé la mondialisation quand même entre-temps. C'est quand on est dans les années 50, la mondialisation, même l'Europe est embryonnaire, et la mondialisation, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Donc il s'est passé la mondialisation avec des compétitions qui se passent à un niveau international, un développement du secteur tertiaire et du secteur financier qu'on n'imaginait pas non plus, les nouvelles technologies. Donc il est assez logique qu'on se rende compte qu'au fond, Paris est un atout et Paris n'est pas un handicap. C'est-à-dire que Paris et le désert français de Gravier, c'est fini. Ça n'a plus de sens.
C'est un livre de 1947 par un grand responsable de l'éducation à l'époque du maréchal Pétain, mais qui a eu beaucoup d'influence. Alors maintenant, si on prend le cas de la Seine-Saint-Denis, par exemple, vous avez des flux de population, 30 à 40% du corps électoral change d'une élection à l'autre. Puis on se demande si les habitants sont encore fixés sur un territoire ou bien s'ils ne sont pas des usagers de réseau.
Bonjour, j'ai une enquête pour la RATP, c'est une dizaine de questions à vous poser simplement.
Profession ?
Prof d'histoire.
Moi je fais de la socio, je fais ma thèse ici.
C'est quoi votre sujet de thèse ?
C'est la gare.
Gare du Nord ?
Bah ici on est nulle part, c'est comme une place de village. Et si ici c'était un village, bah ce serait le monde.
Tout prend ici et très rapidement des proportions gigantesques puisque la gare du Nord est la gare la plus fréquentée d'Europe. Chaque jour, plus d'1,5 million de personnes empruntent les lignes B et D du RER, des trajets souvent très compliqués puisque selon les chiffres même de la SNCF, plus de 15% des trains sur ces lignes accusent des retards significatifs. Ça signifie pour ceux qui prennent le RER tous les jours, au moins un trajet par semaine qui peut virer très vite à la galère.
Excédés, certains voyageurs ont quitté leur train à hauteur du Bourget, de la Courneuve et du Stade de France. Près de 800 voyageurs sur les voies. La SNCF interrompt alors le trafic au départ et à l'arrivée de la gare du Nord. À l'arrivée, pour les voyageurs, une bouteille d'eau, parfois un panier repas. Pas de quoi contenir la colère de certains passagers.
Alors on nous dit que les habitants traversent les territoires sans cesse. Ce qui importe maintenant, c'est leur mobilité et plus leur implantation dans un territoire.
Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée que les gens ne sont tous mobiles. D'abord, les gens ne sont pas tous mobiles. Et même s'ils sont mobiles, ils ont un ancrage. Ils ont un ancrage soit de leur région d'origine, soit simplement du lieu où ils vivent. Ils se lèvent peut-être le matin pour aller travailler à une heure et demie de chez eux, mais leurs enfants vont à l'école là où ils habitent. Ils prennent leurs loisirs très souvent dans les endroits où ils habitent ou tout à fait à proximité. Ils y font une partie de leurs courses pendant le week-end, donc les gens ont un ancrage.
Et ils y votent encore. Il
n'y a pas de démocratie sans territoire.
Merci à vous, Béatrice Gibelin. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Gaël Braouezek, la préparation Franck Olivard, Elisabeth Jacquineau, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco. Qu'est-ce que c'est que cette idée de recherche du bonheur, Mathieu Vidard ?
Ça ne vous intéresse pas, vous, Jean,
c'est
apparemment.
Vain, hein. C'est vain, ah, ben oui. Voilà.
Donc ce n'est pas la peine de faire l'émission, si je comprends bien.
Alors le thème, c'est donc celui-ci.
La quête du bonheur et le bien-être citoyen. Ce n'est pas inintéressant, vous verrez.
Merci à vous.